Le commentaire de
Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres.
Mathieu, depuis deux jours, j'entends quelque chose qui me fatigue un peu. Il y a des gens autour de moi, des amis, des collègues de travail qui me disent « Hey, toute la controverse ces derniers temps avec l'Association des libraires, Mathieu doit être content de ça parce que ça a fait vraiment de la publicité pour lui et son livre. » Et là, je dis vous ne connaissez pas Mathieu, je pense pas qu'il trippe tant que ça. Là. Alors, c'est quoi la réponse?
Ah, mais t'as tout à fait raison. C'est une chose, bon, d'affronter la controverse, disons ça comme ça, et de le faire sans larmoyer, et de le faire sans s'étaler. Mais bon, ça c'est une chose. Je pense que généralement, pour reprendre cette vieille idée, on traverse la crise et puis ensuite, bon, dans l'intime, on aura les sentiments qu'on veut. Mais donc ça c'est une chose. Mais se réjouir, non, pas du tout. On sous-estime, je crois. Puis je dis pas ça pour me plaindre, mais je le dis simplement sur le mode que je crois objectif. On sous-estime ce que ça veut dire, ces tempêtes médiatiques à répétition, cette tentative d'infréquentabilisation qui n'est pas sans effet, cette espèce de campagne de dénigrement permanent qu'on peut lire notamment sur ces fameux réseaux sociaux où les insultes pleuvent comme une espèce d'horrible pluie de novembre. Donc, c'est pas agréable. Une fois que c'est dit, c'est pas l'Union soviétique. Une fois que c'est dit, c'est on fait ce qu'on a à faire, puis on se plaint pas, puis on travaille. Mais tous ceux qui me disent quelle bonne nouvelle, tu disais de la publicité non. pour ton livre, j'ai tendance à dire non, je pourrais l'avoir autrement, d'une autre manière, sans tir d'artillerie symbolique. Mais bon, ensuite, on choisit pas les événements, on décide d'y faire face ou de se coucher ou de se cacher. Mais c'est une étrange idée que de croire qu'on se réjouit de telles situations.
Il va falloir aussi que les gens comprennent dans certains milieux qu'on réplique à des idées par des idées, pas par la censure, pas par l'annulation, par des idées. Vous trouvez que le livre de Mathieu est dans le champ concernant la rectitude politique. Vous êtes un défenseur de la rectitude politique. Bien, publiez un ouvrage maudit pour la rectitude politique où vous répondrez à Mathieu avec des arguments. C'est comme ça que ça se passe.
Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
En fait, c'est qu'on est dans une logique chez cette mouvance sectaire woke, comme on dit aujourd'hui, mais qui n'est pas marginale, hein, c'est-à-dire qu'elle trouve de l'écho chez tout dans le milieu intellectuel, dans le milieu politique aussi, faut pas oublier, dans l'université, c'est une mouvance qui dans les milieux culturels est tout sauf marginale, et ces gens nous disent en gros. Certaines idées ne doivent pas être tolérées parce qu'il ne s'agit pas d'idées, mais de discours haineux. Et leur simple présence dans l'espace public, c'est la présence du diable parmi nous. D'ailleurs, quels sont les arguments? Moi, j'appelle ça l'argument olfactif. Hein. Ces gens-là pensent du nez. Ils vont nous dire que ce sont des idées sulfureuses et nauséabondes. Alors, il suffit de passer les idées de l'autre à la reniflette et on doit lui demander de s'éloigner à l'extérieur du périmètre de la respectabilité. Donc, ils refusent... En fait, c'est même, je dirais, on pourrait, si on s'intéressait à ça, on pourrait en faire une passionnante histoire. Une partie de l'histoire de cette gauche intellectuelle-là, ça consiste à construire des arguments pour expliquer pourquoi on ne doit pas répondre aux arguments de l'autre. C'est-à-dire, c'est expliquer pourquoi on ne doit pas entrer en débat. Et là, tout un système de catégorisation du réel fait en sorte qu'on veut utiliser des catégories pour verrouiller le débat, le limiter au club des éclairés, de ceux qui ont eu la révélation progressiste, diversitaire. Et ceux qui sont à l'extérieur de la révélation sont soit dans l'obscurité, ce sont donc des gens à convertir, à éclairer, à éduquer, ou pire, ce sont des gens à qui on prête une certaine capacité intellectuelle, mais qui s'entendent être dans le mal. Et ça, ces gens-là sont dangereux. Pourquoi faut les faire taire? Hein? C'est dit comme tel. Faut pas se tromper, c'est dit comme tel. Faut les faire taire parce qu'on les voit comme des agents qui relaient des discours haineux, qui exciteraient les pulsions xénophobes, transphobes, islamophobes présentes dans la population. population, les préjugés dans la population. Donc, on doit faire taire le contradicteur, entre guillemets, conservateur, parce que ce serait une figure qui exciterait les préjugés. Donc, quand on est dans cette logique un peu folle, si je peux me permettre, eh bien, il faut, le premier devoir, c'est pas de répondre à l'argument de l'autre, c'est d'expulser l'autre du périmètre du débat.
Et tu sais, on en parle souvent, là, la gauche qui croit avoir le monopole de la vertu et de l'intelligence. Hier, Luc Ferrandez au 98.5 dit, vous savez, c'est les gens progressistes qui achètent des livres. Écoute, oui, c'est à hurler de rire, ça, comme les gens de droite ne lisent pas, bien évidemment.
Alors, j'ai trouvé ça assez amusant de la part de Ferrandez, parce que s'il s'intéressait au grand succès d'édition dans le domaine des essais, par exemple, en France, depuis quelques années, ce sont tous les auteurs les plus infréquentables qui sont plébiscités par le public. C'est ça, par le lectorat. C'est ça qui est assez intéressant. Médiatiquement, culturellement, ils sont diabolisés, mais il y a une partie de la population qui, manifestement, se reconnaît là-dedans. Je ne suis pas... Je me présente pas comme l'auteur le plus vendu au Québec, loin de là, mais à ce que j'en sais, j'ai un certain public qui achète mes livres et ainsi de suite, malgré la mauvaise réputation qu'ils peuvent avoir dans les milieux de la bonne pensée autorisée. Donc, Ferrandez, dans cette formule, c'est terrible, en fait, ce qu'il disait, ça confirme cette espèce de préjugé un peu fou qui consiste à nous dire qu'il y a une forme de supériorité morale et culturelle du progressiste, et le conservateur ne le serait que parce qu'il est soit borné, soit limité, soit enfermé dans un dogme. Et quand Ferrandez dit ça dans une espèce de...
Hop, on a perdu notre cher Mathieu. Alors ça, c'est l'extrême gauche qui a voulu le faire taire. Je suis convaincu, c'est les autres qui ont sectionné les fils. Oui.
Oui, allô?
Oui, on vous écoute.
Oui, pardon. Donc, c'était un homme qui avait en politique, il n'y avait pas que des défauts, mais dans son rôle de commentateur, il ne peut s'empêcher d'étaler son sentiment de supériorité. Je m'en désole et j'aimerais simplement lui apprendre qu'il y a des lecteurs à l'extérieur du petit périmètre des progressistes bon chic, bon genre.
Chaque année en France, il y a toujours un roman à clé qui paraît, là, où les personnages de fiction, là, si on gratte un peu, on voit là qu'ils représentent des vraies personnes et ça se passe toujours dans le milieu littéraire, où on dénonce les luttes intestines, les jalousies, les chicanes internes. Il y en a, on dirait que c'est un genre littéraire en soi, ça, en France. Les romans attelés sur les milieux littéraires, on n'est pas à l'abri de ça aussi, le milieu littéraire québécois. C'est un milieu qui est très petit, il y a des jalousies, il y a des mesquineries. Et j'imagine, Mathieu, je sais que tu n'aimes pas parler de toi, mais je vais mettre le projecteur sur toi. J'imagine que ton succès que tu as en France... la respectabilité que tu as là-bas peut agacer certaines personnes dans ton propre milieu.
Oh, j'en sais rien, c'est possible, non, je sais pas trop. Ce dont je ne doute pas, c'est que c'est un milieu qui aime se draper dans la tolérance et la vertu. Hein. C'est un milieu qui aime chanter sa propre ouverture d'esprit. Dans les faits, c'est un lieu, le milieu littéraire. Bruno Lalonde le disait au micro de Sophie hier. Très justement, c'est un milieu où il n'y a pas que des calinours. C'est un milieu, intellectuel, ça. C'est un milieu très, très, très rugueux, finalement. Alors, on s'entend, là, très rugueux sur le plan de la guerre des réputations, en fait. Et c'est un milieu qui n'est pas à l'abri des passions humaines, qui n'est pas à l'abri des sentiments les plus bas qui habitent le cœur humain, comme tous les autres milieux, d'ailleurs. Mais bon, pour ce qui est de mon cas, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que c'est un milieu qui n'est pas... De tous les milieux que j'ai fréquentés, en fait. En globalement, j'en ai fréquenté trois. C'est les milieux politiques, les milieux intellectuels, les milieux académiques et le milieu médiatique. Bon, tout ça ensemble. Donc, un peu plus. C'est le milieu le plus hostile à la liberté d'expression que j'ai connu. C'est l'université, le milieu intellectuel. Le plus favorable à la liberté d'expression, paradoxalement, c'est la politique. C'est étrange, parce que même si c'est un milieu où il y a la ligne de parti, la langue de bois, en dernière instance, il y a comme une espèce de caractère rugueux, âpre. On est en contact avec la population. Donc, on est obligé, quelquefois, de tenir compte du réel. Alors que le milieu universitaire et intellectuel, c'est une bulle institutionnelle, subventionnée, où des gens peuvent fonctionner dans un petit milieu étroit, une bulle. Ils parlent à personne d'autre, ils sont dans leur code, puis ils ne rencontrent jamais cette chose étrange qui est une personne qui ne pense pas comme eux. C'est un milieu qui est assez asphyxiant intellectuellement, finalement.
Tout à fait. Écoute, en terminant, 400 jeunes ont marché ce week-end dans les rues de Montréal pour la défense du français. Le verre est à demi-vide ou à demi-plein? On peut dire 400, c'est pas beaucoup. On peut dire c'est beaucoup, 400 quand même. C'est pas dans la bonne direction.
C'est plus que qu'on aurait pu le croire. Pendant des années, la question de la langue était soit une passion de boomer ou une question oubliée. Et là, elle est en train de réapparaître dans l'espace public et qu'une jeune génération, certains militants, avec leur sensibilité, leur langage, s'en emparent. C'est une bonne nouvelle. Ils étaient 400 samedi. Avec la vigueur de la question linguistique qui revient, ils pourraient bien être 4000 l'an prochain. Un mouvement de masse n'est pas de masse dès le début. Peut-être quelque chose est-il en train de naître.
Parce qu'à chaque fois qu'on parle des jeunes et de la langue française, on dit toujours, ils sont pas très combatifs, ils n'ont pas connu les luttes que leurs parents, leurs grands-parents ont menées. Ils sont à genoux devant la langue anglaise. C'est pas vrai, là, c'est une généralisation.
Il y avait un discours dominant depuis quelques années qui voulait que le français s'était dépassé, le franglais s'était branché, qui parle franglais était branché sur la mondialisation. Et là, ce que l'on constate, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Hein. Même si parmi ces jeunes, je devine la plupart ne se voient pas comme identitaires ou tout ça, je vois très bien, à un moment donné, il y a certains mots justement qui on disait, sont frappés d'un interdit. Mais quand on reconnaît comme ça que la question du français au Québec, c'est qu'on touche au noyau identitaire de la nation. C'est probablement l'instinct de survie qui les pousse là. Peut-être comprennent-ils spontanément qu'un peuple qui commence à perdre sa langue, à être déculturé, à devenir étranger chez lui, c'est pas beau un peuple qui entre dans une logique de folklorisation et qui agonise culturellement. Donc je veux voir dans ce geste, et je suis persuadé que c'est le cas, un véritable instinct de survie et probablement un signe de redressement.
Écoute, Mathieu, en tout cas, la controverse est terminée, là, je pense. Chaque controverse dure 2-3 jours, puis après ça, on passe à un autre sujet. Donc, ça va te laisser du temps pour terminer ton prochain livre en toute quiétude.
Oui. Merci. Avec grand plaisir.
En attendant, la controverse que tu vas susciter quand ton livre va sortir. Merci, Mathieu Boccoté.
Bonne journée. Bye-bye.